Le paddock RMC, Jean-Luc Roy, Nicolas Paolorsi.
Salut les amis, un petit paddock exceptionnel, c'est la trêve en Formule 1, dans une semaine d'ailleurs, pile poil, puisque ce podcast sort jeudi, le warm-up du Grand Prix de Miami, la reprise de la saison qui commence à se profiler. Je vous rappelle que vous avez un épisode en ligne ce lundi où on a fait un petit tour de l'actu de la Formule 1, parce qu'il se passe pas mal de choses, avec notamment des petites réunions là qui agitent le paddock, mais on vous avait promis un podcast de grande qualité. En tout cas, on l'espère. C'est comme ça qu'on s'est vendu entre nous. Puisque le paddock RMC se transforme en ring. Aujourd'hui, qui est un petit peu le GOAT de la Formule 1? Alors, bien évidemment, c'est très subjectif. On a organisé une battle des époques entre Jean-Luc Roy et Alex Caldi. Le format, il est très simple. Ils ont choisi 4 pilotes qui ont marqué certaines époques. Jean-Luc s'est focalisé sur les années 80 à l'an 2000. Et Alex a pris début 2000 jusqu'à aujourd'hui. Ils ont choisi 4 pilotes. Ils vont s'affronter. Et avec lui, on va bien évidemment les départager. C'est ça notre boulot. Donc vous avez compris, la team des ingénieurs, ils sont tous là. Jean-Luc Roy, Louis Gerbier et Alex Caldi. Salut les copains.
Hello.
Salut tout le monde.
Salut à tous.
J'en profite pour vous dire que si vous aimez ce genre de format qui sont totalement subjectifs, où on va totalement peut-être balancer nos ressentis avec énormément de mauvaise foi, vous nous le dites sur le compte Instagram Paddock RMC. On va vous sortir plein de petits extraits là, de ce podcast, et comme ça on vous prépare des contenus potentiellement pendant la trêve estivale et puis pendant l'intersaison prochaine. Ça peut nous donner des idées. Les copains, tout de suite c'est parti. On va voir qui a Francky, ça va être exceptionnel. Vous allez me donner le casting de vos pilotes. On se lance tout de suite dans la battle des époques. Ce qu'on va faire, les gars, c'est que vous allez me donner les 4 pilotes que vous avez choisis tout de suite. Nous, avec notre producteur préféré, Kylian Vérov, on vous a préparé des petites affiches, des 1 contre 1. Le gagnant de chaque match se retrouvera qualifié pour le tour suivant. Et puis, il y aura un grand vainqueur. Louis sera là pour appuyer ou pas vos propos. Je vais vous donner le palmarès des pilotes à chaque match. Et puis, vous aurez 2-3 minutes pour argumenter. On se lancera dans des débats et on va essayer de trouver un gagnant à cette issue. On rappelle, bien évidemment, que tous les pilotes dont on va parler sont des immenses champions, des immenses cracks, que c'est très dur de faire une sélection, que encore une fois c'est très subjectif avec beaucoup de mauvaise foi, et qu'il y a bien évidemment le cœur de chacun qui parle derrière toutes ces analyses. Donc non, si on détruit les Lewis Hamilton, c'est pas parce qu'on n'aime pas les Lewis Hamilton.
Je serai le premier avocat, vous inquiétez
un peu
pas.
Moins qu'un autre. Ouais. Je commence avec les 4 pilotes choisis par Jean-Luc Roy. Donc tu t'es focalisé sur années 80 en 2000. Mon Jean-Luc, qui as-tu choisi pour cette battle des époques?
Oui, on est bien d'accord. Alors on s'est limité à cette période, c'est 20 ans, comme tu l'as dit. Et on ne dira qu'une fois, effectivement, il y a du parti pris, il y a même de la mauvaise foi, il y a de la passion. Alors je vais commencer évidemment pour moi par le plus grand d'entre tous. Il se prénomme Ayrton, son nom c'est Senna. Et pour moi, c'est vraiment le météore de la Formule 1. Il a marqué cette période-là. En plus, malheureusement, sa trajectoire s'est interrompue, comme vous le savez. Bref,
Ne te grille pas tous tes arguments.
Le deuxième, c'est Alain Prost. Presque pour les mêmes raisons. En plus, ils se sont affrontés au sein de l'écurie la plus puissante à l'époque. Ensuite, Alain a changé d'équipe. Je garde donc mes arguments. Le troisième, et c'est dans le désordre, c'est Niki Lauda, parce que c'était vraiment un pilote atypique et une personnalité atypique qui a marqué les années 70 et les années 80 jusqu'à sa retraite. Et puis évidemment, Michael Schumacher, comment l'incontournable, l'homme qui a établi le niveau de stats sur un podium incroyable. Et il y en a qu'un, et je crois qu'Alex va nous en parler, il y en a qu'un qui est parvenu à l'égaler.
Ouais, Michael Schumacher qui est sur deux époques, mais du coup, c'est Jean-Luc qui l'a pris. On a donc Senna, Prost, Lauda, Schumacher dans la team Jean-Luc Roy. Alex Caldi, la team Caldi est composée de qui?
La team Caldi est composée dans un premier temps, allez, je vais commencer par Sébastien Vettel, quadruple champion du monde de 2010 jusqu'à 2013. J'ai mis ensuite forcément sur Lewis Hamilton, le plus grand statistiquement parlant de l'histoire de la Formule 1, incontestablement, ça pour le coup c'est des faits. J'ai mis bien sûr Maximilian Verstappen, comment ne pas le citer, aujourd'hui le meilleur pilote du monde. Et puis j'étais obligé de le mettre parce que c'est celui qui m'a fait aimer la Formule 1, c'est Fernando Alonso. Fernando Alonso parce qu'il y avait d'autres champions du monde. Il y aurait pu avoir Kimi Räikkönen par exemple, mais c'est vrai que j'ai choisi Fernando Alonso parce que c'est lui qui m'a fait aimer la Formule 1 et l'époque de Renault est trop émotionnelle pour moi. Et après, j'ai mis des petits pocs. J'ai mis Robert Kubica et Arnaud Trulli, mais ça, c'est très émotionnel aussi.
ça, c'est le petit, petit kiff perso, bien évidemment. Mais oui, mais on a tous.
Mais Kubica, il est validé. Hein, moi, je le valide.
Ah, oui, oui,
ça, c'est...
Ouais. Ah, moi, tu vois, j'avais un petit truc pour physiquer là.
Ah, mais tu sais que j'ai hésité aussi avec Arnaud Trulli, mais physiquer là.
Physique est là, c'est
pas moi, j'aurais pu vous mettre Jacques.
Et Jean-Charles Physique, ça marche pas non plus.
Jacques Villeneuve, toi, c'est vrai que c'est un peu ton coup de cœur, mon Jean-Luc. Allez, première affiche. Le tirage au sort a parlé. Notre huissier de justice, Kylian Verhoeve.
Il est multifonction, il était producteur il y a deux minutes.
Maître Moya, comme dans Secret Story.
Il fait vraiment tout, il gère les réseaux sociaux, donc c'est vraiment une polyvalence ce Kylian. Ouais. Allez, premier tour, Ayrton Senna affronte Sébastien Vettel. On est sur un premier match quand même de zinzin. Senna,
c'est dur, hein.
Il est dur ce jeu en fait.
Ouais, il est très dur ce jeu. Ayrton Senna, 41 victoires, 3 titres de champion du monde, 1988, 90, 91, iconique dans l'histoire de la F1. Et Sébastien Vettel, quadruple champion du monde, 2010, 2011, 2012, 2013. 53 victoires en 299 Grands Prix. Il a marqué l'arrivée de Red Bull, bien évidemment, en Formule 1. Ça a été le successeur de Michael Schumacher. Vettel, il a vraiment marqué les années 2010. Voilà pour cette première affiche. Je commence avec toi, mon Jean-Luc. Deux minutes pour, pas pour nous défendre ton champion, mais pour nous dire pourquoi Ayrton Senna doit aller plus loin. On le disait et on le sait à chaque fois que tu en parles, Jean-Luc. Pour toi, tu n'as pas connu un mec qui t'a plus marqué en Formule 1 qu'Ayrton Senna.
Eh bien, c'est évident. Alors, je vais m'appuyer sur trois piliers, si vous le voulez bien, mesdames, messieurs, bonsoir. Tu sais, c'est comme les plaidoiries d'avocat. Donc, il y aura évidemment le nombre de victoires, le nombre de pole positions, le nombre de podiums. Je me suis arrêté là, on pouvait en rajouter le nombre de meilleurs tours en course, c'est tout ce qu'on veut. Mais, et surtout le ratio, c'est-à-dire le nombre de victoire par rapport à la participation, parce que pour moi, c'est un chiffre qui est très parlant et qui, au regard évidemment de la carrière qui s'est interrompue, malheureusement, brutalement ou pas, et pour Ayrton, on le sait bien, peut-être qu'il avait encore tellement de stats et tellement de victoires. Alors, je parlais de stats et de ratio de victoire. Eh bien, avec sa 41 victoires, il a remporté la course une fois sur quatre, 25,47%. Alors, je ne vais pas attaquer le client de mon adversaire, Alex, mais je vais le laisser parler. Mais enfin, il écrase littéralement le quadruple champion du monde qu'il va défendre, même si Ayrton, et je le reconnais volontiers, n'a que trois titres à son actif. Alors, si on parle des pôles, vous savez que, évidemment, c'était sa spécialité absolue, 65 pôles, un record qu'il a détenu très longtemps avant qu'évidemment Michael Schumacher fasse mieux avec 68 et Lewis Hamilton encore mieux avec 104. Mais alors en termes, pardonnez-moi, en termes là aussi de ratio, 40,37%. C'est incroyable. Je ne parlerai pas de l'adversaire direct, mais c'est plus de deux fois plus. C'est dire que Ayrton était vraiment une météore, vraiment quelqu'un de flamboyant. Et puis j'en termine par les podiums, où là aussi, bon, comme c'était quelqu'un évidemment qui a bénéficié là aussi, et je précise, et j'en parlerai tout à l'heure avec Alain Prost, qui se sont un petit peu annihilés tous les deux, mais quand même, en termes de podium, eh bien il est pratiquement à 50%, 49,69% des Grands Prix auxquels il a participé, il était sur le podium. Alors, au-delà des stats, au-delà des chiffres, Ayrton, c'était surtout un personnage absolument incroyable, quelqu'un de mystique, et certains lui ont reproché à l'époque, en tout cas c'était sa manière de se comporter, il avait l'honnêteté de le dire, que n'entendrait-on pas aujourd'hui sur les réseaux sociaux. C'était quelqu'un, tout le monde le dit, Alain le premier qu'il a peut-être connu et affronté mieux que personne, c'était quelqu'un d'incroyable. Les pilotes, quels qu'ils soient, quand ils voyaient un casque jaune apparaître dans les rétroviseurs, eh bien ils savaient que l'attaque allait fuser, parce que c'est comme ça qu'il a bâti sa trajectoire en Formule 1, avec la modeste Tolman, hein, au début, vous en rappelez, puis sous la pluie à Monaco, évidemment, ce fameux Grand Prix qu'il aurait pu ou dû remporter. Bon, c'était vraiment quelqu'un non seulement pétri de talent, mais en plus avec une personnalité exceptionnelle, quelqu'un en plus de courtois, quelqu'un de délicat, quelqu'un de bien élevé. Bref, un type très bien. Alors, je ne vais pas en faire un saint, parce que bien sûr qu'en course, comme toujours, tous les champions ont toujours eu parfois des comportements un peu limites. On ne va pas en faire un saint, surtout pas parce qu'il a disparu et pas de cette manière-là. Mais pour moi, c'est quelqu'un qui marquera à jamais l'histoire de la Formule 1.
Vous avez entendu le gong, mais Jean-Luc, notre team principal, est allé au bout de son argumentaire après le gong. Bien évidemment,
Il y a peut-être vice de procédure, là, il a fait 4 minutes, hein, marché 2 minutes.
Non, alors non, il n'y a pas de vice de procédure, parce que...
Mon adversaire commence à...
Déjà, on ne va pas parler de corruption, mais sur Ayrton Senna, on a rallongé un petit peu le chrono de Jean-Luc, parce qu'on savait qu'on était obligé. Vous avez 2 minutes 30 pour défendre votre poulain, c'est vrai que je ne l'ai pas donné dans la règle. Alexandre Caldi, bon courage pour défendre Sébastien Vettel. Moi, Louis, j'ai déjà mon vainqueur, je connais déjà l'impression.
Non, alors ça sert à quoi que je parle.
Mais non, mais vas-y
quand
même.
C'est quoi ça, quand même? Non,
mais c'est fou, ça. T'as encore une chance.
Allez, ce que je veux dire sur Sébastien Vettel, c'est que je rejoins ce que dit Jean-Luc sur une chose, c'est que Ayrton Senna est une icône d'ailleurs pour les générations que l'on a aujourd'hui en Formule 1. Sébastien Vettel était bien sûr fan d'Ayrton Senna, mais aujourd'hui on parle beaucoup d'icônes générationnelles. Sébastien Vettel est devenu une icône générationnelle. On parle d'un pilote qui a martyrisé la Formule 1, notamment en 2011 et en 2013, particulièrement avec une monoplace Red Bull, une collaboration l'une des plus successful de l'histoire de la Formule 1. Et moi, c'est sur ce point-là que je veux appuyer, dans le sens où Sébastien Vettel a marqué l'histoire par sa façon d'être. Au début, on a trouvé que c'était un sale gosse d'une certaine manière, en 2010 quand il devient champion du monde, en 2011 par cette arrogance, et puis par la suite, quand il est arrivé du côté de chez Ferrari, on a vu un pilote qui était beaucoup plus humble, différent et qui était assez attrayant et très touchant, notamment par ses causes environnementales que j'ai beaucoup, beaucoup apprécié. Et que c'est comme ça que, de cette manière-là, du moins, que j'ai encore plus aimé Sébastien Vettel et que ça a été presque un cœur déchirant de le voir quitter la Formule 1. Aujourd'hui, vous demandez à qui que ce soit dans le paddock ou vous demandez à qui que ce soit qui est fan de Formule 1, est-ce qu'il vous manque Sébastien Vettel? Oui, parce que c'était un personnage. Jean-Luc parlait d'Ayrton Senna comme étant une personnalité très sympathique, polie et qui était une personnalité également, j'ai envie de dire, attrayante de sa manière d'être. Sébastien Vettel aussi, et ça l'était particulièrement dans son évolution en Formule 1, quand il est arrivé pour son premier Grand Prix en 2007, au point de devenir aussi très rapidement, après seulement 2 saisons complètes en Formule 1, il devient vice-champion du monde en 2009. Quand même, il faut le rappeler, contre Jenson Button. Ouais. Et ensuite, en 2010, ce titre, alors qu'il n'était pas du tout attendu, il y a une dramaturgie aussi également pour Sébastien Vettel, une dramaturgie victorieuse. Les titres en 2011, 2012, 2013, en plus pour nous Français, des victoires avec le moteur Renault, ce qui est beau aussi pour nous. Donc, je ne vais pas partir défaitiste sur le combat contre Ayrton Senna, bien sûr, mais il faut quand même rappeler qui est Sébastien Vettel, qui est un pilote qui a marqué l'histoire de la Formule 1, et même s'il ne s'est pas imposé avec la Scuderia Ferrari, il a quand même marqué l'histoire de la Scuderia.
C'est beau. Et en plus de ça, tu as terminé avant le gong. Bravo, c'était un,
j'ai fait une minute 59,
très beau
non
premier match. Ouais, c'est ça, t'as été exceptionnel. Excellent. Loulou, faut qu'on arrive à donner un vainqueur entre Ayrton Senna et Sébastien Vettel. Ton petit cœur, toi. Mais toi, alors, t'as vu rouler Vettel, donc forcément, on n'a pas vu rouler Senna, mais on a vu tellement de documentaires, on a vu tellement de choses un peu mystiques autour de Ayrton Senna. Qui passe en demi-finale?
Ah, parce que c'est moi qui décide, c'est pas toi et moi?
Ah, bah, tous les deux. Ah, bah, oui.
Ok, avec, non, bien sûr, mais je faisais un point règlement, c'est tout.
Ouais. Il faut qu'on tranche.
Évidemment, si on parle sur les émotions, de fait, moi, j'en ai plus eu avec Vettel qu'avec Senna. Oui. Ça, c'est sûr. Senna, quand t'es, moi, je suis de 93, il décède un an après. Pour moi, Senna, c'est le pilote star de mon père, mon oncle, mais enfin, tu vois, genre, donc t'en entends parler depuis toujours avec Prost, Senna. Mais moi, j'ai presque, alors agacé, c'est un grand mot, attention, mais presque été un peu, tu vois, le côté mystique qu'on lui donne aujourd'hui et tout ça fait que, je sais pas, oui, alors c'est vrai que quand tu vois des images, c'était incroyable, quoi, mais. Moi, j'ai une sensibilité à Sébastien peut-être un peu plus forte parce que je l'ai vu, j'ai vu des grands prix en ayant toujours été plutôt supporter de la Scuderia. J'ai quand même parfois été frustré avec lui ou des choses comme ça. Donc voilà, comme c'est quasiment injouable de départager tellement c'est des légendes les deux et que, bah, je vais aller sur Sébastien sur le côté un peu émotion personnelle.
C'est pour ça que je t'aime, Louis.
Alors, moi, le gros problème qu'on a, c'est que moi, je vais voter Sénat. Parce que
c'est Kylian qui va choisir. Voilà.
Parce que du coup, c'est Kylian, c'est exactement ça, c'est Kylian Béroff dans les ordres qui va me donner son vainqueur. Ouais. Et je vais vous le dire très honnêtement. Et vous allez voter, bien évidemment. Hein, si vous nous écoutez là, on va vous mettre les battles sur l'Insta de RMC. Vous allez voter et on relaiera ça, vos résultats à vous, nos auditeurs, dans un prochain podcast. Moi, personnellement, Kylian, je vote Sénat. Qui c'est qui passe en demi-finale?
Et là, il n'est pas dispo, il est en train de faire les sandwichs parce qu'il est aussi cuistot.
Il vient de me le dire, paddock. Attention. C'est solennel, c'est Ayrton Senna qui se qualifie en demi-finale.
Et voilà, la logique s'impose.
Bien sûr.
Ben oui, mais
avec tout le respect.
Tu vois, moi j'ai dit Vettel et d'un autre côté, je suis d'accord avec vous en fait, parce qu'évidemment,
ben je comprends.
C'est une icône de fou. Quoi.
Ouais.
Non, mais on l'a dit en préambule.
Quart de finale.
Oui.
Allez, on y va.
Oui, alors, on l'a dit en préambule et on le redit, c'est de la subjectivité.
Voilà,
avec, voilà, Vettel est un excellent pilote. Il y a même pas.
Il adore les abeilles.
Deuxième quart de finale. Fernando Alonso va affronter Michael Schumacher. Schumi, le baron rouge.
C'est match.
Là, il y a match. Là, il y a match. Je vous préviens.
Bon Jean-Luc, 2 minutes 30 pour plaider la cause de Schumi.
Allez, je vais être concis, je vais être bref. Bah écoute, il est en haut de toutes les statistiques avec Lewis, bien évidemment. Mais donc là, ça n'est pas son adversaire. Donc il a explosé les compteurs à tous les niveaux avec détenteur du plus grand nombre de victoires, 91 évidemment, du plus grand nombre de pôles pendant longtemps, 68 évidemment, du plus grand nombre de podiums avec 155. En plus, je dirais qu'il a dominé son époque. Et moi, ce qui m'a impressionné, c'est d'abord son arrivée en Formule 1 était fantastique. On s'en rappelle lors du Grand Prix, effectivement, de Spa-Francorchamps, hein, en Belgique, c'est-à-dire un juge de paix avec la modeste Jordan. Immédiatement, il a été arraché et emmené chez Benetton, où il aligne deux titres pilotes dans des conditions délicate, hein, difficile, avec un moteur Ford, un moteur Renault, et puis après, il y a la série chez Ferrari. Alors, je ne dirais pas, paradoxalement, c'est un peu de la provoque, que c'est ce qui m'impressionne le moins, parce qu'il avait une machine tellement dominatrice, et surtout, ses équipiers n'avaient pas le droit de se battre avec lui, ce qui est pour moi regrettable. Alors, ça n'a pas terni son image, bien au contraire. À part ça, une maîtrise exceptionnelle, une détermination absolument fantastique, un talent étincelant, et puis on va dire quand même une personnalité, même si peut-être plus secrète, mais remarquable. Je crois que la Michael Schumacher a marqué et marquera son époque à vie, naturellement.
Michael Schumacher, ah bah t'as été très bref là, mon Jean-Luc. Tu vois,
bien,
on aurait dû raccourcir la durée du gong. On va passer à 2 minutes. Ouais, on va passer à 1 minute 30, Kylian me dit. Fernando Alonso, alors là, moi, Alex, tu vas mettre de l'émotion, je le sais.
Plaidoirie,
parce que c'est ton chouchou, quoi, Fernando.
Fernando Alonso Diaz, de son nom complet, est un pilote qui aujourd'hui a 44 ans, mais qui est surtout pour moi le symbole de pourquoi j'ai commencé à aimer la Formule 1 et de comment Fernando Alonso m'a amené dans l'univers de la Formule 1. On parle d'un pilote iconique parce qu'il est devenu champion du monde avec une livrée rouge et bleue, cette livrée d'un cigarettier, c'est vrai, mais cette livrée Renault qui a triomphé justement sur qui ? Sur Michael Schumacher, justement le client qu'essaye de défendre justement Jean-Luc Roy. Mais de ce fait-là, quand...
Pardonne-moi, tu as dit rouge et bleu, c'est bleu et jaune.
Bleu et jaune, excusez-moi.
D'accord,
ouais, bleu et jaune.
Parce que j'avais un doute, là je me suis dit, bon, d'accord.
Daltonien. Mais ce que je veux dire, non, mais en fait, ce que Fernando Alonso symbolise pour moi, c'est le talent qui n'a jamais été véritablement récompensé. Alors oui, il y a deux titres de champion du monde avec Renault, le triomphe sur justement Michael Schumacher et la Scuderia Ferrari. Mais au-delà de ce départ de Renault qui a été assez énigmatique, c'est vrai, c'est un enchaînement de mauvaises situations qui sont indépendantes de sa volonté. Le départ du côté de chez McLaren, le départ ensuite, retour du côté de chez Renault, le départ après du côté de chez Ferrari, où il a été, on va dire, un peu coupé par les stratèges du côté de la Scuderia, mais tout ça montre que c'est un talent qui a toujours été exceptionnel, qui a justement jamais été récompensé. Aujourd'hui, quand on regarde Michael Schumacher, est-ce que c'est une légende du sport automobile plutôt que de la Formule 1 ? C'est une légende de la Formule 1, Michael Schumacher. Mais quand tu regardes Fernando Alonso, c'est une légende de la Formule 1, mais une légende du sport auto. Il a gagné les 24 heures du Mans, il a tenté l'aventure en IndyCar. Et c'est là, en fait, c'est de cette manière-là que je veux mettre en avant Fernando Alonso, c'est qu'il est complet, complet, complet. Michael Schumacher, c'est un pilote qui est exceptionnel, mais qui a eu des monoplaces qui ont été absolument exceptionnelles. Fernando Alonso, il n'a jamais eu les monoplaces qu'avait pu avoir justement Michael Schumacher. C'est de cette manière-là que je veux mettre en avant aussi Fernando Alonso, c'est que c'est un pilote fabuleux qui n'a jamais été récompensé à sa juste valeur.
C'est beau. C'est beau, c'est beau, mon Alex. 1 minute 30.
En fait, c'est nous qui avons le pire des tafs, Nico.
Ah ouais, ouais.
Complètement. Faut impossible. C'est horrible. Je vous ai pas donné quand même, vous les avez effleurés, mais Schumi, c'est 91 victoires en 307 Grand Prix, bien évidemment. 7 titres de champion du monde. Ouais. Fernando Alonso, c'est 32 victoires en 428 courses et 2 titres de champion du monde en 2005 et 2006 avec Renault. Loulou, on qualifie qui ? Schumi ou Alonso ?
Je rajoute juste un point quand même. Que sur Alonso, il n'y a quand même que 7,48% de victoires sur l'ensemble de ses Grands Prix, donc 428 Grands Prix. Enfin, c'est dire à quel point il a été malchanceux, le pauvre.
Je qualifie notre ami Michael Schumacher pour les chiffres quand même, et aussi parce que littéralement, lui, pour le coup, désolé Alex, tu n'y peux rien, mais c'était mon idole.
Ah bah oui, mais ça...
Donc là, c'est tout droit.
Ouais, là, moi aussi, j'avoue que je vais voter Schumi pour ce
Yes! Non, mais j'adore Fernando. Mais je te rassure, Alex, j'adore Fernando. Voilà.
Après, mon pilote, il est encore en Formule 1 alors qu'il est devenu champion du monde sous Jacques Chirac, quand même. Hein. Enfin, juste te le rappeler.
Ça, c'est vrai. Mais c'est ça que tu aurais dû dire. Tu serais passé avec ça.
Et vous savez tous à quel point j'adore le sport automobile dans son ensemble. Et je souscris à ce que tu as dit, Alex, le fait qu'il ait eu le courage d'aller
aussi.
Au Mans, de remporter le Mans et d'aller aux 500 miles d'Indianapolis.
Et le Dakar, on oublie le Dakar aussi. Hein.
Ah, bien sûr. Non, c'est un pilote complet et je souscris. C'est un type extraordinaire. Voilà, et malheureusement, pas récompensé. Oui, lui, il valait deux titres de mieux tranquillement. Ça, je suis entièrement d'accord.
C'est parti pour les demi-finales pour Michael Schumacher. Troisième quart de finale, Niki Lauda affrontera Lewis Hamilton. Niki Lauda, c'est 25 victoires, c'est 3 titres de champion du monde. Et puis c'est bien sûr un passé assez fou dont Jean-Luc va nous parler. Face à Hamilton et des stats totalement zinzin. J'ai perdu la page parce que j'ai pas cliqué dessus.
peux donner la victoire à Hamilton.
Où,
hein.
Lewis
oui.
Il est où mon Lewis ? Bon, je le donnerai après. Ouais,
104 pôles et 203 podiums.
Mais
voilà.
Je sais, mais en fait, t'es sur Stat F1, Nico, dis-le. Hein,
Ah bah oui, totalement. Mais j'ai fermé la page au même moment. Jean-Luc.
Oui.
Bon là, Jean-Luc, t'as du taf. Parce qu'il faut essayer de passer avec Niki Lauda face au GOAT Hamilton. Donc vas-y, défends-nous Niki Lauda.
Alors justement, je vais vous faire un plaidoyer affectif. Alors pourquoi ? Parce qu'effectivement, Niki Lauda, alors vous avez tous vu évidemment le film hein, sur la saison 1976, ce film magnifique qu'il a opposé à James Hunt et le film qui en a été tiré, certes hollywoodien mais remarquablement réalisé, démontre la personnalité et la mentalité incroyable de cet Autrichien. Évidemment, il était bien né. Évidemment, il avait une famille qui avait de l'argent au départ. Mais il n'a pas utilisé cette carte-là. Il a même rompu avec son père. Il ne se parlait plus pour faire sa carrière de pilote de Formule 1. Et il a fait preuve d'une détermination, d'un côté méthodique. Alors certes, alors lui, les réseaux sociaux, ce n'était pas son truc. Hein, je peux vous dire, il n'était pas racoleur du tout. Mais c'était quelqu'un qui avait d'abord un courage exceptionnel, parce qu'on rappelle évidemment cet accident absolument effroyable qu'il a subi au Nürburgring, hein, où il a été brûlé, il a même reçu l'extrême onction, il était à l'article de la mort, et il est revenu, il a réussi à décrocher d'autres titres de champion du monde, donc il en a eu 3 au total, le dernier face à Alain Prost chez McLaren, et puis... Tous ceux qui l'ont connu, je l'ai connu un petit peu, je vais être honnête, hein, je l'ai interviewé plusieurs fois, bien sûr. C'était quelqu'un qui avait un humour, alors je vais oser dire à froid, vous allez dire que c'est un vilain jeu de mots, mais si, un humour caustique absolument incroyable. C'était un type à se tordre de rire, mais vraiment, alors il n'en avait pas l'air, hein, c'était pas lui qui animait les fins de banquet, mais je pense que c'était, d'ailleurs, Toto Wolff l'a dit, quand il est décédé, relativement récemment, quand il l'a perdu. Il était dans le staff de Mercedes. Il avait un rôle à jouer auprès des pilotes et il l'a joué. Tous les pilotes qui se sont succédés chez Mercedes l'ont reconnu. Bref, pour moi, je ne vais pas vous parler de son palmarès. Et pourtant, je vais quand même vous dire qu'il a 25 victoires. Hein, c'est quand même pas rien du tout. Que c'est quelqu'un, il a 24 pôles, donc c'est quelqu'un qui a marqué son histoire, mais surtout, il a été champion du monde sur plus de 10 ans. Il a subi un accident effroyable, il est passé aux portes du gouffre, il est revenu, et c'était un personnage, lui aussi, absolument attachant, même si ce n'était pas, encore une fois, un bout en train, mais c'est quelqu'un qui méritait d'être connu.
Deuxième
marche
gong.
Pas du tout. Marche pas du tout, ce gong. Hein.
Je l'entends pas, je l'entends pas. Allô, allô.
Il ne fonctionne absolument pas. Très belle plaidoirie, mon Jean-Luc, pour Niki Lauda. On enchaîne. Alex Caldi, Sir Lewis Hamilton. Ah, c'est du tout droit. Hein.
C'est que dire sur Sir Lewis Hamilton. Je vais plutôt parler de ce qu'il représente pour moi. Parce qu'au-delà des succès et des victoires, c'est ce qu'il inspire dans sa manière d'être. Hamilton, pour moi, c'est celui qui a symbolisé le renouveau de la Formule 1, le renouveau aussi culturel. Je rappelle que Lewis Hamilton, c'est un pilote qui arrive en 2007 en Formule 1, où il y a des blackface aux essais hivernaux, justement de Barcelone, où il doit faire face justement à ça, à ces insultes raciales, à ces remarques qui sont totalement ignobles. Et il se bat contre ça, il se bat justement pour faire ce renouveau de la Formule 1 et faire changer les mentalités. 20 ans plus tard, nous sommes en 2026, ou plutôt même, allez, on va dire, oui, 20 ans plus tard, on voit à quel point il a impacté la Formule 1 et dans son renouveau. Le changement de mentalité et surtout les succès, comment il est allé gagner. Rendez-vous compte, en 2007, on y affronte le pilote dont on parlait juste avant, Fernando Alonso, et il vient se mesurer à lui et il vient s'imposer à lui, justement. Et de l'autre côté, quand on regarde en 2008, c'est là où il remporte son premier titre mondial sur Felipe Massa en terre brésilienne, dans un final qu'on pouvait qualifier de cinématographique et un triomphe qui restera à jamais historique. Après, il a fallu quand même attendre longtemps avant de le voir de nouveau gagner, attendre un projet qui lui mettait véritablement en valeur où il pouvait enfin s'exprimer, le projet Mercedes. Derrière, ça a été un immense champion et un immense pilote par son efficacité. Alors oui, son meilleur ennemi et meilleur ami, Nico Rosberg, était là pour justement ajouter encore plus de dramaturgie, mais avec cette saison 2016. Mais dans la globalité, il a toujours su triompher, il a toujours su être dans le bon environnement. Après, il y a eu 2021, ce titre qu'on pourrait presque qualifier de volé, peut-être. Allez, je vous laisse refaire le débat. Mais d'une certaine manière, quand on voit contre Max Verstappen, Verstappen a battu le meilleur pilote à ce moment-là de l'histoire de la Formule 1, à mon sens, dans le niveau qu'il avait, qui était donc Lewis Hamilton, ça relevait justement du miracle de voir Verstappen s'imposer. Mais ensuite, il y a eu la décadence Mercedes et la volonté de vouloir se renouveler et de tenter le pari de la Scuda Ferrari. Pour moi, en fait, Lewis Hamilton, c'est le romantisme de la Formule 1 et c'est un pilote qui symbolise tellement de choses d'une manière des mentalités et surtout d'une manière de la performance où il est le GOAT absolu en termes de statistiques. Personne ne pourra jamais le battre.
C'est vrai qu'en termes statistiques, c'est beau ce que tu as dit. Tu as mélangé les émotions, la culture, le sport. Je sais pas si on fera mieux là sur cette fin de podcast.
Mais Lewis Hamilton, je me pose même une question. C'est-à-dire, on dit tellement de choses sur les pilotes et maintenant, il va falloir, quand on va affronter un Lewis Hamilton contre un approche, je vais devoir redire la même chose. Ça va être difficile.
Non, tu ne rediras pas la même chose. Il y aura un vrai débat après entre les deux. Du coup, vos argumentaires vont tenir pour tout le podcast. Mais Louis, qu'est-ce qu'on fait ? Hamilton ou Niki Lauda ? Moi, j'ai mon idée.
Bah ouais, là moi aussi. Grand respect à Niki Lauda, mais ouais. Faut que ça soit les chiffres, la carrière, même ce qu'a dit Alex sur le gars, il a fait évoluer la discipline sur et en dehors de la piste d'une manière qui a, je pense, été inédite. Donc plus 7 titres qui, dans les chiffres, fait que voilà. Donc bon, Lewis, bravo.
Ouais, Lewis Hamilton, moi aussi. Même si je reconnais que le destin et l'histoire de Niki Lauda, franchement,
c'est exceptionnel, quand même.
T'as envie de regarder 3-4 films sur ça.
Hamilton devient champion du monde chez Mercedes aussi, grâce à Niki Lauda, son apport.
Totalement.
Oui, absolument. Il y a l'étoile rouge sur la voiture quand, une fois qu'il était décédé. Et il était très proche. Ils étaient très proches.
Allez, quatrième quart de finale, et c'est probablement le quart de finale, en tout cas à mon sens, le plus difficile à pronostiquer. Alain Prost contre Max Verstappen. Et alors là, celui-là, Celui-là, je vous avoue que en plus, il y a le côté français d'Alain Prost. Très compliqué. Alain Prost, c'est 51 victoires. C'est 4 titres de champion du monde. Et puis, on connaît le palmarès de Max Verstappen. Jean-Luc, je te commence par défendre le professeur Alain Prost face à Verstappen. En plus, je sais que tu adores les deux. Donc, toi, là, tu es tiraillé, hein, mon Jean-Luc. Hein.
Ah, totalement tiraillé. Mais bon, c'est selon les règles du jeu, mon Nico, et c'est normal. Alors, Alain, Alain, d'abord, je peux presque dire que c'est un ami. En tout cas, c'est un très bon copain. Je l'ai côtoyé tellement longtemps. Je l'ai pratiqué, je l'ai écouté, je l'ai interviewé, je l'ai suivi. Je l'ai défendu quand il était attaqué par certains. C'est le premier champion du monde français. On l'a attendu tellement longtemps, celui-là. On était tellement heureux ce jour-là. C'était tellement un accomplissement absolument fabuleux parce que, aussi, il faut rappeler que c'était vraiment une longue histoire. Hein. On n'y croyait plus, presque, on peut le dire. Et donc, il avait été dominé d'un demi-point seulement par Niki Lauda en 84. Et puis, en 85, il parvient effectivement à aligner toutes les planètes et à décrocher ce premier titre. Et puis, il ne s'est pas contenté de ça. Après, il a affronté celui dont on a abondamment parlé. Il a affronté Ayrton Senna. Et ça a été un coup à toi, un coup à moi. 88 champion Ayrton Senna, 89 champion Alain Prost, 90 Ayrton Senna. Et puis Alain se remet en cause. Il quitte McLaren, donc qui est quand même la meilleure écurie peut-être de l'époque où qu'il était, pour partir le défi Ferrari, là aussi, que malheureusement, il n'a pas réussi à décrocher, lui non plus. Hein. Ils ont été nombreux. Hein. On a parlé d'Alonso, on a parlé de Vettel, les champions du monde qui sont venus chez Ferrari, qui ne sont pas parvenus à concrétiser. Alors, Alain, au-delà de tout ça, c'est quelqu'un qui s'est fait tout seul, vraiment. On rappelle que c'est un gamin qui était destiné au football, hein, d'abord, du côté de Saint-Chamond, ouais. Vous imaginez un peu. Mmh. Et puis, un jour, par hasard, il monte dans un karting, dans un kart, et ça se met à marcher. Et puis finalement, de fil en aiguille, avec très, très, très peu de moyens, et c'est tout son mérite également, mais avec une volonté, une détermination incroyable, avec l'aide de gens qui ont cru en lui, Elf notamment, hein, il faut bien sûr les citer, Alain a fait son chemin, a décroché ce titre et est devenu un personnage absolument incontournable. Après, il a été plus loin que ça, il a eu le courage d'avoir sa propre équipe, sa propre écurie, même si, bon, malheureusement, on le sait bien, ça n'a pas été couronné de succès pour tout un tas de raisons, mais il a eu le courage d'avoir sa propre équipe, ce qui n'est pas évident du tout. C'est quelqu'un qui reste dans l'ombre, qui écoute, qui étudie, qui analyse et qui a un avis absolument autorisé sur tout. C'est aussi un personnage incontournable de la Formule 1. C'est quelqu'un, encore une fois, quand on le connaît, et j'ai la chance de le connaître, c'est quelqu'un d'attachant, c'est quelqu'un qui se protège aussi, qui ne se livre pas beaucoup en public, mais c'est quelqu'un d'absolument fantastique. Pour moi, c'est Alain, tout simplement. Il est irremplaçable à ce titre. Et au-delà des statistiques que l'on peut évoquer, je préfère parler de l'homme.
Très belle plaidoirie, Jean-Luc, pour défendre Alain Prost. Mmh. J'ai beaucoup aimé. Max Verstappen et ses 71 victoires, 4 titres de champion du monde, vont être défendus par Alex Caldi. C'est parti.
Y a-t-il à défendre le meilleur pilote du monde ? Telle est la question, en vrai. Mais il est vrai que Max Verstappen, c'est assez intéressant, moi, de mon côté, parce qu'au début, quand il est arrivé en Formule 1, j'étais un peu peut-être arriéré dans mon esprit. Je me disais, oh, qu'est-ce qu'il est arrogant celui-ci ? Il arrive, il n'a même pas 18 ans, il débarque en Formule 1 et il parle mal de Felipe Massa, de Lewis Hamilton aussi à ce moment-là, de Nico Rosberg, qui demandait un peu plus de respect à ce moment-là. Et puis on l'a vu évoluer. Et puis surtout en 2016, on le voit triompher en Espagne dès son premier Grand Prix avec Red Bull. Et pour moi, en fait, c'est quelque chose d'assez symbolique de Max Verstappen. Le gars a toujours voulu être le meilleur dès qu'il est arrivé en Formule 1 et surtout, il n'a jamais voulu se laisser marcher dessus. Et c'est pour ça qu'en fait, que Max Verstappen est tellement atypique et a tellement été atypique dès qu'il est arrivé en Formule 1, c'est qu'il a montré directement qu'il allait devenir champion du monde. Et il est devenu champion du monde assez rapidement quand même, si on regarde. En 2021, il devient champion contre le meilleur pilote à ce moment-là de l'histoire de la Formule 1, qui était donc Lewis Hamilton. Et derrière, on pensait que ça allait peut-être baisser en termes de rythme, on pensait que Red Bull allait baisser en termes de niveau par rapport à 2021. Et non, finalement, ça a été des dominations. Et c'est surtout ça qui qualifie Max Verstappen. C'est un martyriseur de concurrence. C'est un Il est dans une domination. Il a été dans une domination sans conteste, et notamment la saison 2023, qui est pour moi la saison la plus aboutie pour un pilote dans l'histoire de la Formule 1 et même pour une écurie. Là où je veux en venir, c'est que Verstappen est peut-être à l'origine et à l'initiative de l'une des plus belles collaborations de l'histoire de la F1, et que j'ai du mal à le voir en dehors d'une écurie comme Red Bull. Signe que pour moi, Max Verstappen est aujourd'hui le meilleur pilote du monde par rapport à son niveau, mais par rapport aussi à sa mentalité. Il veut faire évoluer la Formule 1, il veut surtout sauver la Formule 1 de la réglementation dans laquelle on est. On parle beaucoup du pilote, de la domination qu'il est, mais je rejoins aussi Jean-Luc sur un aspect, c'est sur l'humain. Et l'humain qu'il faut mettre en avant pour Max Verstappen, c'est ça, c'est que c'est un pilote qui sait penser Formule 1, qui respire le sport auto et qui va partout au-delà même de la Formule 1 et qui fait ce qu'il aime principalement, faire la course. Est-ce qu'aujourd'hui en Formule 1, on fait toujours la course de la manière de Max Verstappen? Je ne pense pas, mais c'est justement pour ça qu'on l'aime.
Ouais, personnalité à part, c'est clair sur cette grille 2026 et depuis quelques années, Max Verstappen. Bah mon loulou, bon courage. Hein. Alain Prost, Max Verstappen.
Ouais, là, pas évident. Hein.
Là, qu'est-ce qu'on fait là ?
Là, c'est compliqué. En plus, je vois pas mal de similitudes entre les deux.
Ouais, je suis d'accord avec toi. Ouais.
Le côté où ça n'a pas forcément été évident que le public l'aime. Je sais qu'Alain a souffert de tous les fans de Senna qui, parfois, on le sait, dans les rivalités, au lieu de juste encourager son pilote, on va plutôt dénigrer l'autre.
Même en France, il a même déménagé en Angleterre, si je me souviens.
Ouais,
bien.
Ouais, donc
en Suisse.
En Suisse, pardon.
Oui, alors ça avait peut-être rien à voir.
Ah si, ça avait à voir.
Il était beaucoup critiqué en France, et moi, quand j'avais vu tous les documentaires, j'étais assez attristé de lire tout ça.
Ah bah moi, si demain je suis très riche, je dirais que c'est très dur de. Je peux plus vivre en France, écoutez, c'est trop compliqué. Il va falloir que j'aille à Lausanne. Par
oui, mais toi, t'es quelqu'un d'intéressé, mon loulou.
Allez, moi, on va choisir. J'ai beaucoup aimé l'argument de Jean-Luc sur le fait que derrière, il a eu sa propre écurie.
C'est en karting.
Ouais, c'est peut-être quelque chose que fera Verstappen un jour, on ne sait pas.
Bah, il l'a déjà.
Peut-être qu'un jour ça s'appellera Red Bull Verstappen Racing Team, ouais. Formula One Team. Mais ouais, allez, pour la Gauloise, pour cette bagnole de dingue là, cette bagnole de fou, je dis Alain Prost.
Alain Prost, moi j'ai un gros problème, c'est que j'ai un crush pour Max Verstappen. J'aime le pilote, j'aime la franchise du gars, j'aime son caractère, ou pour le dire un peu crûment, mais ils s'en tapent en fait de tout, ils disent ce qu'ils pensent. J'aime aussi son début d'année 2026 où il est capable de flinguer la FIA et tout ça. Donc pour tout ça, moi je vote Verstappen, du coup on a une égalité et c'est notre Kylian à nous.
Il est à la lessive là, attends, laisse-le finir la lessive.
Il a tranché direct. Je vous le dis, il a appuyé sur le bouton, il a dit Max. Je croyais que je devais rentrer au box. Je croyais que je devais rentrer au stand. C'est Max Verstappen qui se qualifie pour cette demi-finale. On a éliminé Alain Prost en quart. On en est là. C'est vraiment
incroyable.
Un jeu horrible.
Je ne le crois pas. Je quitte la salle.
C'est le temps, les amis, des demi-finales. Première demi-finale de cette battle des époques, et là Ayrton Senna va affronter Michael Schumacher. On a donné nos arguments pour ces deux pilotes. Alex Caldi, pour qui votes-tu?
Ah non, mais attends, mais moi il me faut vraiment 10 minutes là de réflexion. Non, pas 10 minutes de réflexion.
On n'a pas 10 minutes, on les a, les 10 minutes.
Alors je vais faire parler l'émotionnel et je vais parler de ce que j'ai véritablement connu, c'est Michael Schumacher. Et ça fait penser que moi il y a toujours des what if que j'ai dans ma vie dans la Formule 1, c'est s'il avait prolongé son contrat avec Mercedes, est-ce qu'il serait devenu nonuple champion du monde par exemple. Mais ouais, je pense que je vais plutôt partir sur un Michael Schumacher plutôt qu'un Ayrton Senna.
Je comprends. Jean-Luc.
Oh ben sans surprise, évidemment. Ayrton Senna, je l'ai dit, pour moi, c'est le plus grand. Ouais. Et ça restera probablement le plus grand à jamais.
On est sur un partout, Louis.
Ah, Michael Schumacher.
Michael Schumacher.
Ah, idole. Bon, ça va être à moi de faire basculer un petit peu tout ça. Et j'avoue, mon Jean-Luc, que pour le coup... Et Dieu sait que j'ai lu énormément de choses sur Ayrton Senna. Je t'ai écouté des heures. Je vous conseille l'excellent podcast. À chaque fois qu'on parle d'Ayrton Senna, on en parle. Panthéon, avec Nicolas, Jamin et Jean-Luc, où il y a toute la carrière d'Ayrton Senna qui est retracée. C'est vraiment un super podcast. Mais malgré tout ça, je vais voter quand même Michael Schumacher. Parce que c'est le baron rouge, quoi. Et que bon, moi j'ai un peu aussi grandi avec ça. Donc non, Michael Schumacher va se...
Voilà, si tu me permets un mot, et c'est normal, vous êtes tous les trois de la même génération.
Ben il oui, vous a marqué. Bien sûr.
C'est tout à fait normal. Ouais. C'est lui qui vous a incité probablement à vous intéresser autant à la Formule 1. C'est avec lui que vous avez vécu vos plus grandes et plus belles émotions. C'est normal, c'est
lui,
un choix
lui l'a ruiné mes dimanches, hein, Michael Schumacher.
Ah oui. Ouais.
J'étais pour Renault déjà très tôt.
Deuxième demi-finale, les copains, nous avons Lewis Hamilton qui va affronter Max Verstappen. Mais c'est beau, c'est beau. Ça, c'est exceptionnel.
Allez,
je l'avais pas vu.
Oh, bah allez.
Allez. Hamilton, Verstappen, Alex Caldi, il faut trancher. Et alors là, c'est compliqué. En plus, juger deux mecs de la même époque, c'est vraiment très dur.
Ah, c'est affreux, là.
Ben, je vais expliquer en 15 secondes. C'est Lewis Hamilton qui m'a donné envie de travailler en Formule 1. Donc, je vais partir sur Lewis Hamilton. Moi, j'ai toujours l'image de 2007 où il gagne le titre sur TF1 avec Jean-Luc Moncey et Christophe Malbranque au commentaire. Donc, je m'en souviendrai toute ma vie de ce moment-là. Et c'est pour ça que Hamilton a toujours une place très, très différente dans mon cœur.
Lewis Hamilton, Jean-Luc.
Bah Max Verstappen, parce que, alors là, pour le coup, je me mets dans l'actu. Je pense que, comme vous l'avez dit, il est arrivé comme un chien fou dans ce jeu de quilles.
Ouais.
Et puis, il a appris. C'est un garçon intelligent qui a été mené à la dure, qui a lui aussi, contrairement à ce qu'on peut penser, je pense, et il n'a pas tout dit, il ne dira jamais, vécu l'enfer avec son père, mais il le dit, il en a fait ce qu'il en a fait. C'est-à-dire que c'est lui qui lui a donné cette volonté, cette détermination incroyable. Et puis, c'est un bouffeur de records. Hein. Alex l'a rappelé tout à l'heure dans son argumentaire et son développement, et sa plaidoirie, je dirais, en 2023. Et pour moi, le meilleur est encore à venir si la passion reste là. Parce que c'est un passionné de sport mécanique, là aussi, sous toutes ses formes. Et là, en cela, il rejoint effectivement Fernando Alonso. Moi, je le vois remporter Le Mans, et je le vois peut-être remporter un jour les 500 miles d'Indianapolis. Donc pour moi, Max Verstappen.
Loulou, on est un partout.
Ouais, là c'est chaud. Je pense que la question, on me l'a posée il y a 2 ans, c'était très rapide, je disais Lewis, mais alors sur ces 2 dernières années, Verstappen m'a tellement impressionné dans tout, dans le fait d'avoir une voiture qui n'était plus la première et d'arriver quand même à faire des victoires et à embêter tous les autres pilotes, dans ce côté un peu total qu'a dit Jean-Luc, quoi. Le gars ne lâche rien, jamais, sur... Ouais, c'est hyper dur. T'as une idée, toi, Nico, pour me gagner un peu de temps, là, me donner 10 secondes de réflexion?
Écoute, moi, je me mets à la place d'un team principal, à peu près. Enfin, c'est compliqué.
Ah bah si mais aujourd'hui, si tu dis aujourd'hui, tous les jours.
Aujourd'hui, c'est pas compliqué.
Ouais, mais à 28 ans, tu vois, je me mets sur l'âge de Verstappen là maintenant.
Avec Hamilton, ok, oui.
Entre le Lewis Hamilton de 28 ans et le Max Verstappen de 28 ans, je pense que je prends Verstappen. Je pense que je prends Verstappen parce que, en fait, le truc d'Hamilton, c'est que tu l'as dit, il y a plein de choses aussi qui dépassent le cadre du sport et je suis d'accord avec toi. Mais je trouve qu'en piste, en fait, l'autre, c'est.
Fais en ton âme et conscience, Nico. Franchement.
C'est une brute. Bah, Verstappen. Je suis sûr à Verstappen, mon loulou. Et toi?
Ah non, Louis. Ah non.
Ah là, c'est chaud parce que du coup, ouais.
Là, mon gars, c'est toi qui. Ouais. C'est soit match nul et c'est.
Là, je vais tuer un monstre, quoi.
Mais attendez, comment le meilleur pilote de l'histoire de la Formule 1 ne peut pas être en finale? En fait, je ne comprends pas. Non.
Je suis désolé, monsieur le président. Là.
Ça y est, j'ai décidé. Jean-Luc a raison. S'il gagne encore quelque chose, il passera devant. Mais à date, disent les gens d'école de commerce, Lewis Hamilton.
Voilà. Lewis Hamilton, on est donc sur un 2 partout. Et pour Kylian, attendez, il m'a soufflé quelque chose. Qu'est-ce qu'il m'a dit?
c'est
Lewis, Lewis Hamilton qui se qualifie. On aura tout donné, mon Jean-Luc, mais Lewis Hamilton.
Ah bah tant pis, écoute, il faut perdre avec élégance. Avec élégance.
Allez, la finale.
Et finissons, les amis. Finale. Lewis Hamilton, Michael Schumacher. Je vais pas. Et franchement, c'était pas forcément la finale que j'avais misé dans mes pronos à la base quand on avait fait le bracket, comme on dit avec Kylian, le tableau. Schumacher, Hamilton. Je commence par Jean-Luc Roy. Qui va gagner la Battle des Époques, mon Jean-Luc?
Alors, en un mot, et là, je sais que là, je vais me faire des ennemis, mais ça n'est pas grave. Lewis Hamilton s'est très rarement rendu coupable de manœuvres dangereuses par rapport à ses adversaires sur la piste. Et je m'arrêterai là, je dirais que ça n'est pas le cas de son adversaire, donc je choisis Lewis Hamilton.
Eh ben, je sache que Lewis c'est un Hamilton. Excellent argument et je ne l'aurais pas forcément sorti, mais c'est vrai en plus, oui.
Ouais. Franchement, ça peut être décisif.
Alex,
on dit rien encore.
Ah ben là, ça fait un 2-0 pour Lewis Hamilton. Est-ce que j'ai besoin vraiment d'encore plus d'étayer
Non. Mais je savais, mais je préfère quand même confirmer. Nos règles sont très strictes dans ce jeu. Louis Gerbier.
Ah oui.
Bah, t'étais là, je dois choisir entre un peu l'idole ultime et celui que j'ai aussi beaucoup supporté à son arrivée en Formule 1 tout de suite. Parce que moi, je le dis pas fort, mais j'ai jamais été trop fan d'Alonso. Et donc, du coup, tout de suite, ça m'a plu qu'Hamilton le batte.
Parce qu'Alonso nous écoute, donc il y a bien peut-être taper. Ouais.
Non, c'était au cas où il y avait notre réalisateur Daniel Torres en régie, il serait venu me taper. Mais non, donc on va choisir. Ah là là, c'est si dur. Allez, je vais rester sur le premier qui l'a fait, plus l'idole, Michael Schumacher.
Oh, 2-1. Oh non, Nico. Ah non.
Allez, Nico.
Arrête. Même Jean-Luc, qui a préféré Ayrton Senna, a dit Lewis Hamilton aujourd'hui. Tu peux pas aller sur toi.
Non, mais après, moi, je suis dans la position du roi. Je peux fuir. Je peux tout mettre sur les épaules de Kylian. On en a un point.
Ça, c'est très laid.
Attendez, c'est très
courage. Fais un choix courageux.
Eh ben. Alors, je suis entièrement d'accord avec Jean-Luc sur cette histoire de Schumi, pilote agressif, trop agressif, même dangereux. Il a eu des manœuvres. Mais Schumacher a quand même quelque chose, c'est qu'il a gagné dans plusieurs époques. Quand il gagne au début des années 90, c'est pas la même Formule 1 que dans les années 2000.
Bah, Hamilton aussi, dis donc.
Hamilton, attends.
Ouais, en 2008, c'est pas du tout la même réglementation.
Attendez, j'ai l'argument massu. Il y en a un qui a construit avec Ferrari et l'autre, il est arrivé, la voiture était prête à gagner presque.
C'est vrai.
C'est un peu caricatural, hein. Mais débuts de Ferrari et Schumacher, c'était très compliqué.
Hamilton, il arrive chez McLaren en 2007. Oui, il y a la voiture qui est excellente, bien sûr. Mais de l'autre côté, il s'affronte Fernando Alonso, il doit se taper Fernando Alonso.
Ferrari, qui quand même est sur un titre avec Kimi.
J'ai tenté un truc, c'est un échec pour vous départager.
C'est un très bel argumentaire. Je vais voter Michael Schumacher. On en est à deux partout. C'est donc, c'est donc à Kylian Verhoeven de trancher le Kix.
Attends, il est en train de faire le ménage là. Pose ton balai.
Alors,
il me dit, je suis désolé, je n'ai que 25 ans, je cite Kylian Verhoeven ce soir. Lewis Hamilton.
Il nous fout sa jeunesse à la gueule.
Les amis, Lewis Hamilton remporte cette battle des époques, c'était très cool.
Bravo, logique.
Merci d'avoir joué le jeu encore une fois. Si vous nous écoutez, bien évidemment, vous venez nous donner votre avis. Si vous kiffez ce genre de format aussi, franchement, vous venez nous le dire parce qu'on a plein d'idées comme ça, des tier list. En plus, avec Jean-Luc qui a côtoyé les pilotes d'avant, franchement, ça nous permet vraiment d'avoir un spectre super large. Et ça, c'est génial. Donc, vous venez nous le dire. On se retrouve ce lundi. On se retrouve ce lundi? Oui, peut-être. Ou en tout cas, on se retrouve pour le warm-up du Grand Prix de Miami.
Abonnez-vous, comme ça vous saurez.
Mais bon, ce que vous faites, c'est que vous vous abonnez à la chaîne podcast, vous avez les notifs qui tombent, et puis voilà, vous savez quand il y a un podcast qui sort. On fait ça. Allez, ciao, ciao, les amis, bye.
Ciao.
Ciao.
Le paddock RMC.